France Inter, le 6-9 du week-end.
Depuis mercredi dernier, un pass sanitaire est nécessaire pour l'accès au rassemblement de plus de 1000 personnes. Il servira également pour voyager et lors des contrôles aux frontières aussi. Ce pass sanitaire, eh bien, c'est votre mot de la semaine, Patricia Martin. Vous en parlez avec le juriste Nicolas Hervieux. Il est spécialiste du droit des libertés. Il enseigne également à Sciences Po.
Exactement. Nicolas Hervieux, bonjour.
Bonjour.
Format papier ou numérique, ce pass sanitaire dont on disait d'ailleurs qu'il ne serait jamais obligatoire, a vu son existence donc adoptée par nos députés. Est-ce que c'est une surprise pour le juriste que vous êtes ?
Alors, il n'y a plus beaucoup de surprises en cette période ô combien exceptionnelle. Il y a de nombreuses choses qu'on ne pensait pas possibles et qui le sont à la faveur de la crise sanitaire. Toute la question, c'est de savoir quelle est la configuration de ce pass sanitaire et son ampleur. À ce stade, c'est une ampleur assez limitée, puisque ça concerne que des grands événements sportifs ou culturels, d'une ampleur suffisante, mais pas pour la vie quotidienne. Donc, en tant que tel, le pass sanitaire n'est pas voué à se généraliser aujourd'hui dans la vie quotidienne, et c'est par ailleurs un dispositif censé être temporaire.
Alors, la CNIL, donc la Commission nationale de l'informatique et des libertés, a un petit peu tiqué, en tout cas émis quelques réserves. Elle dit oui si c'est sous un certain nombre de garanties, évidemment, donc si c'est conforme aux règles nationales et européennes sur la protection des données personnelles. Est-ce que c'est le cas ?
Alors, c'est toute la question. La CNIL a souligné des points très importants, en particulier la dimension temporaire de ce mécanisme qui doit être exceptionnel, et c'est très important. Le problème, c'est qu'on sait qu'en droit, le temporaire a tendance à se généraliser, à se prolonger dans le temps. Donc, il faudra être très vigilant à ce sujet. Et puis, la deuxième exigence, c'est aussi la sécurité et la sécurisation des données très sensibles, médicales et personnelles, qui sont ainsi recensées dans le dispositif de passe sanitaire et qui pourraient être détournées de leur finalité, à la fois par des acteurs privés et peut-être de façon plus redoutable encore par des acteurs publics et notamment l'État, qui pourrait amorcer ici un dispositif de surveillance des déplacements des personnes et de leur vie quotidienne. Et c'est évidemment cela qui est le plus à craindre et dont il faut absolument se garder en veillant à ce que les garanties mises en place, aussi bien d'un point de vue juridique que d'un point de vue technique, empêchent les détournements de données et empêchent les atteintes excessives aux droits, notamment au respect de la protection de la vie privée.
Alors, le fonctionnement de tous anti-Covid avait été pointé du doigt parce que l'application a été conçue par l'Imprimerie nationale, qui est une société qui appartient à l'État. Donc, est-ce que ça peut poser problème, ça ?
Alors, au-delà même des concepteurs privés ou publics, ce qui compte, c'est le fait de verrouiller autant que possible à la fois le nombre de données collectées à cette occasion. On ne doit pouvoir contrôler et collecter que les données strictement nécessaires au fonctionnement du pass sanitaire. Et comme le dénonce notamment la Quadrature du Net à la faveur d'un recours en référé devant le Conseil d'État, il n'est pas sûr que le dispositif actuel du pass sanitaire soit strictement proportionné à ce qui est vraiment nécessaire. Et puis le deuxième point, c'est d'éviter évidemment les piratages, les détournements de données, aussi bien d'acteurs privés que de l'État. Et ça aussi, la CNIL l'a souligné, ce n'est pas encore parfaitement clair et parfaitement sécurisé. Et il y a lieu de rester extrêmement vigilant sur ce point.
Pour l'instant, les informations, c'est si le pass est valide ou invalide, il y a le nom et la prénom de la personne et sa date de naissance, c'est ça ? Et les données sont censées ne pas être conservées.
Alors, c'est toute la question. C'est-à-dire que le cadre légal tel que prévu par la loi qui autorise le mécanisme prévoit une liste très restrictive de données que vous venez d'égrener, effectivement. Le problème, c'est que et le décret qui met en œuvre ce mécanisme, mais aussi les applications qui ont été créées sur cette base, semblent collecter davantage de données, et notamment des informations non nécessaires, comme par exemple la date de vaccination, la dernière contamination, un ensemble d'informations médicales et personnelles qui ne sont pas absolument nécessaires. Et par ailleurs, se pose la question de savoir si il est absolument nécessaire de disposer d'une carte d'identité ou d'un passeport, donc d'un document officiel pour pouvoir utiliser ce pass sanitaire, alors qu'il n'est absolument pas obligatoire en France de disposer de tels documents. Donc il faudrait s'assurer que le fonctionnement effectif de ce pass sanitaire ne va pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire et ne soit pas finalement une espèce de boîte de Pandore pour une généralisation de la surveillance numérique dont on sait que de nombreux acteurs privés ou publics sont très friands.
Et qui va contrôler ? Parce que le contrôle, il faut qu'il soit effectué uniquement par des personnes, habilitées.
Alors oui, normalement, ça ne peut être que des personnes habilitées, mais surtout ce qui compte, c'est que ceux qui contrôlent ou qui vérifient concrètement qu'une personne dispose de la possibilité d'accéder à l'événement, eh bien, n'est finalement qu'un feu vert ou un feu rouge, mais n'est pas la possibilité d'aller collecter les données personnelles des intéressés. Ça, c'est absolument fondamental. En principe, ça doit être le cas. Mais là, encore une fois, il faudra veiller à ce que ce soit le cas concrètement. Est-ce que, surtout, les applications qui sont conçues, techniquement, sur la base des règles juridiques qui autorisent ce pass sanitaire, eh bien que ces applications, techniquement, n'aillent pas collecter des informations parasites, excessives, pour éviter les détournements. Et c'est là où il y a une vraie difficulté, c'est qu'entre ce qu'autorise le droit et la façon dont le mécanisme est mis en place, il peut se nicher des difficultés et des risques d'accaparement des données bien au-delà de ce qui est nécessaire.
Donc il y a toujours des risques d'usage mal intentionné.
Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant avec ce type de mécanisme, à la fois parce qu'il s'agit finalement d'un filtrage d'accès à des événements normalement ouverts à tous, et puis surtout c'est toujours cette tentation constante d'utiliser les circonstances exceptionnelles, c'était le cas pour le terrorisme, c'est le cas pour la crise sanitaire, pour avancer dans un agenda de surveillance numérique de la population, pour des raisons plus ou moins bien intentionnées, et c'est surtout de cela dont il faut se méfier. Bien sûr, tout le monde est d'accord pour revenir à une vie normale et pour cette raison, sacrifier un petit peu de notre protection de la vie privée pour sortir enfin de cette nasse de plusieurs mois de crise sanitaire. Mais il faut faire attention à ce que ce ne soit pas un prétexte pour la généralisation des dispositifs de surveillance.
Merci beaucoup Nicolas Hervieux.
Je vous en prie.